Alors, en préparant la prédication pour ce matin, j'ai pensé à une de mes nièces qui, lorsqu'elle était bien jeune, elle était toute petite, elle aimait tellement les moments qu'on passait en famille quand ils nous rendaient visite, hein, avec les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins et les cousines, que quand venait le moment justement de se séparer, venait le moment de rentrer à la maison, c'était les larmes qui coulaient. Elle était triste de chez triste de chez triste parce qu'il fallait se séparer de cette famille, se séparer, hein, de ceux qu'elle aimait tant. Et on m'avait beau essayer de la consoler, hein, et de lui rappeler que bientôt on allait la revoir. Mais finalement, tout ce qu'on pouvait vraiment faire, c'était de prier déjà le Seigneur de la réconforter, puis aussi de prier pour les parents, hein, parce qu'ils avaient 4 heures de route aussi à faire. Bon, elle pleurait pas tout le trajet, mais on sait que c'est des moments difficiles lorsque il s'agit pour nous de nous séparer de ceux que l'on aime tant. Mais ce matin, j'aimerais parler justement de la séparation, d'une séparation qui suscite la joie, qui suscite la joie, mais aussi bien d'autres bénédictions. Hein, vous le savez que ce mois de mai est rempli de jours fériés en France et que même la semaine prochaine, nous allons de nouveau avoir un long week-end parce que, voilà, en France, eh bien, l'Ascension, c'est un jour férié. Mais j'aimerais justement parler de l'importance de l'Ascension parce que c'est bien plus pour nous qu'un jour férié, c'est bien plus qu'un jour de repos, hein, c'est bien plus que de se demander est-ce qu'il va faire assez beau pour faire des barbecues. L'Ascension est un événement historique, un événement qui nous est rapporté dans les Écritures. Hein, Marc en parle, mais c'est surtout Luc, hein, que ce soit dans l'Évangile, mais aussi dans le livre des Actes des Apôtres, qui parle de cet événement et qui nous donne de nombreux détails de cet événement. Et force est de constater que malheureusement, c'est un de ces jours, un de ces événements que on ne porte pas assez notre attention dessus. Hein, on sait que bon, Noël, c'est quand même, on va dire, la grande fête, hein, que beaucoup de gens vont célébrer même sans savoir pourquoi. Mais parmi les chrétiens, nous célébrons la naissance du Seigneur et on sait pourquoi il est venu. Et c'est pour ça que nous célébrons Pâques également. Et on a ces deux événements qui restent vraiment collés à notre identité en tant que chrétien. Mais on oublie aussi ce que ce jour de l'Ascension représente. Et on oublie les nombreuses bénédictions qui sont liées à l'Ascension. Et donc, on sait que d'après les Écritures, hein, 40 jours après la résurrection du Seigneur Jésus, eh bien, Christ est retourné au ciel. Il est retourné auprès du Père. Et même si, comme j'ai dit, hein, l'évangile de Marc en parle, c'est vraiment dans l'évangile de Luc et dans les Actes des Apôtres qu'on a de riches détails par rapport à cet événement-là. Moi, j'apprécie beaucoup Luc. Hein, Luc, c'était un médecin de formation, mais quand on lit l'évangile, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on se rend compte que c'était aussi un excellent historien. Il donnait beaucoup, hein, de détails par rapport à des événements, par rapport à des lieux géographiques, etc., qui ont permis à beaucoup de personnes, hein, de regarder à ça et se dire, mais vraiment, il connaissait bien, hein, les événements qui se sont passés et qu'il décrivait. Et même certains sceptiques, hein, sont même, ont même pris le temps de retracer, hein, ce que Luc parle et de se rendre compte que effectivement, il a été là, il a constaté ces choses-là, et certaines personnes sont même venues au Seigneur grâce à cela. Mais j'aimerais qu'on lise tout d'abord donc le passage que nous trouvons dans Luc chapitre 24, et nous lirons les versets 44 à 53, Luc chapitre 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors c'est pour ça que je mentionnais l'exemple de ma nièce qui m'a pleuré lorsque venaient ces moments de séparation. Mais là, chose vraiment étonnante, les disciples, alors qu'ils sont séparés de leur maître, de leur sauveur, de leur ami, de leur frère, eh bien à ce moment-là, ils retournent à Jérusalem avec une grande joie dans leur cœur. Et même on aurait pu prendre le temps de regarder aussi le chapitre premier du livre des Actes, les versets 1 à 11, pour voir encore davantage de détails sur cet événement. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, à la fin de l'évangile, on a ce récit de l'ascension, et au début du livre des Actes, on a également ce récit de l'ascension. L'évangile de Luc va s'achever avec eh bien, ce récit, et on a une sorte de transition justement entre le ministère de Christ sur terre, la raison pour laquelle il est venu, et puis ensuite cette transition avec le livre des Actes des Apôtres et l'établissement de l'Église de Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais donc qu'on prenne le temps de regarder avec la plus grande attention l'importance de cet événement. Pourquoi c'est important pour nous de regarder à cet événement et puis de la même façon que les disciples l'ont fait, de pouvoir glorifier Dieu, de pouvoir adorer le Seigneur, d'avoir cette grande joie dans le cœur et que nous puissions, en nous souvenant de cet événement, de ce que ça représente, de nous réjouir même de ce que Christ ne soit plus ici-bas. Je sais que on pourrait penser, ah, ça aurait été tellement mieux que Christ ressuscité reste sur terre. On aurait pu penser cela. Mais on va voir que dans le plan de Dieu, c'était encore plus important pour Christ de retourner au ciel, et plus important pour nous également. Mais ce que je voudrais souligner d'abord, et une des premières raisons majeures pour lesquelles nous pouvons nous réjouir par rapport au fait que Christ soit retourné au ciel, c'est que tout d'abord, nous voyons là l'humble serviteur qui a retrouvé sa gloire initiale. Sans avoir le temps de vraiment approfondir tout ce que cela représente, c'est quelque chose d'une grande importance dans le plan de la théologie, ce que représente ce retour au ciel. Mais c'est surtout le fait que, en retournant au ciel, ça signifiait, eh bien, la fin du ministère terrestre de Christ. C'est-à-dire que la raison pour laquelle il était venu sur terre, eh bien, sa mission avait été accomplie, elle avait été achevée. C'était également la fin de son humiliation, n'est-ce pas? On sait d'après les Écritures que Dieu le Père a envoyé son Fils sur terre, il l'a envoyé parce qu'il nous aime, il a envoyé le Fils dans le monde pour nous sauver, mais pour cela, le Fils a dû s'humilier, n'est-ce pas? Et l'ascension, ça signifie la fin de cette humiliation-là. Ça signifie la fin de ce que Christ a dû, eh bien, s'humilier, même se restreindre par rapport à qui il est. En venant au monde, eh bien, le Fils s'est humilié, limité, dans le but d'accomplir le plan divin pour la rédemption des pécheurs. C'est ce qu'il nous dit dans l'évangile de Marc au chapitre 10 et verset 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est-à-dire qu'en venant sur terre, Christ s'est humilié en devenant homme. Et il s'est humilié davantage en devenant serviteur. Et il s'est encore humilié davantage en donnant sa vie sur la croix et en prenant sur lui notre péché. L'ascension, ça signifie également que sa mission terrestre, elle était réussie. Tout ce qu'il était venu accomplir, il l'avait parfaitement réalisé. Et l'ascension, ça signifie cela. C'est-à-dire que quand Christ est venu sur terre pour offrir sa vie et ressusciter des morts et ainsi nous accorder à nous le moyen d'être rachetés de nos péchés, sa mission a été accomplie. Dans Jean chapitre 17, les versets 4 à 6, nous voyons que Christ, lorsqu'il était au ciel, avait la gloire qui lui appartenait. Il dit au verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. C'est-à-dire que dans son incarnation, Dieu le Fils a dû mettre de côté la gloire qui lui appartenait. Mais avec l'ascension, cette gloire lui a été restituée. Il continue au verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc, la raison pour laquelle Christ s'est humilié, c'était pour nous. Et donc, nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons nous réjouir, oui, du sacrifice de Christ, de la victoire qu'il nous a accordée par le salut, qu'il nous a gracieusement accordé. Mais nous pouvons aussi nous réjouir que, voilà, ce temps d'humiliation, ce temps de souffrance et de douleur qu'il a connu, maintenant, depuis qu'il est au ciel, tout cela, c'est fini. Il a retrouvé la gloire qui lui est due. La gloire de Jésus, pendant ce temps sur terre, était restée voilée, n'est-ce pas? Il n'y a eu que un moment exceptionnel, on va dire, un bref instant. Vous vous rappelez de ce récit de la transfiguration où certains des disciples de Christ ont pu voir la gloire du Fils. Et ils étaient tellement bouleversés, touchés par cet événement qu'ils étaient en train de vivre, qu'ils voulaient même préparer des tentes, etc. Et puis essayer d'en profiter le plus longtemps possible de voir Christ dans sa gloire. Mais à part cet événement unique, le temps que Christ a passé sur terre, cette gloire n'était pas là. Et au moment donc de cette ascension, ce moment de retour au ciel, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, Paul nous donne un peu plus de détails dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, les versets 20 à 23. Ce passage nous indique que Christ a été exalté par le Père. Il dit au verset 20, il l'a déployé, il parle de la puissance, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En s'humiliant et en se soumettant à la mort sur la croix, Christ a effectivement payé le prix du péché pour l'humanité. Mais en retournant au ciel, le Père l'a exalté, l'a restitué dans sa place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a eu, on va dire, un rétablissement de ce qui était la normalité, de la présence de Christ au ciel. Et donc pour nous, oui, effectivement, nous devrions nous réjouir. Nous devrions nous réjouir pour celui que nous aimons tant. Nous devrions nous réjouir de ce que Christ a pu retrouver cette gloire, qu'il a pu retrouver cet honneur qui lui appartient. Et d'ailleurs, lorsque les disciples ont pu comprendre, la raison de cette séparation, cela explique pourquoi ils sont retournés à Jérusalem avec une grande joie. Pas une petite joie, pas la joie que, oui, on va le revoir avec les larmes qui coulent, une grande joie. Ça indique vraiment qu'il y a eu un changement extraordinaire qui s'est produit, même dans la vie des disciples, en voyant Christ retourner au ciel, après que le Seigneur, eh bien, leur a expliqué beaucoup de choses et leur a promis également son retour. Mais voilà, il y avait cette grande joie qui les a accompagnés parce qu'ils ont compris la nécessité de cette ascension. La seconde raison que nous voyons également pour nous de célébrer, de nous réjouir de ce que Christ soit retourné au ciel, eh bien, nous voyons que jusqu'à ce moment-là, jusqu'au bout, le bon berger, il a été fidèle, n'est-ce pas? Jusqu'au bout de son ministère terrestre, le Seigneur Jésus a continué de prendre soin de ceux que le Père lui avait confiés. Et les disciples ont pu voir cela. Ils ont pu constater cela. Ils ont pu vivre cela. On le voit prendre le temps de les enseigner, n'est-ce pas? D'élargir leurs connaissances, de les édifier, de les réconforter et même de leur confier la plus grande mission pour l'humanité, n'est-ce pas? Avec cette assurance que jamais, jamais, il ne serait seul. On voit ici dans ce passage, hein, au verset 44, que le Seigneur, là encore une fois, il a pris le temps de leur expliquer que tout ceci devait s'accomplir parce que Moïse en avait parlé, parce que les prophètes en avaient parlé. On retrouve un peu le même discours qu'il a eu avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Hein, il a repris les textes des Écritures pour expliquer pourquoi il était venu et la raison de son humiliation. Et là, au verset 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et je crois qu'il y a une vérité fondamentale pour nous. C'est que lorsque nous plongeons nos regards dans les Écritures et que nous comprenons la nécessité de l'ascension, la nécessité de tout ce qui s'est produit, eh bien, comme les disciples, eh bien, nous pouvons nous réjouir. Par ce fondement, hein, inébranlable des Écritures, le Seigneur, il a exposé à ses disciples cette nécessité de sa mort et de sa résurrection, pour que cela soit fermement ancré dans leur esprit, mais aussi dans leur cœur. Et il les a miraculeusement aidés à comprendre les Écritures. À multiples reprises, lorsqu'on lit les Évangiles, combien de fois les disciples, « Seigneur, on n'a pas compris. Explique-nous, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que veut dire cette parabole? De quoi parles-tu? On ne comprend pas. » Et là maintenant, à travers les Écritures, il leur montre, il leur explique. Et grâce à son aide, ils comprennent la signification, eh bien, de ce que Moïse parlait, de ce que les prophètes parlaient, la signification, hein, de la venue, de l'humiliation de Christ, des douleurs et des souffrances qu'il a subies. Il aurait expliqué, effectivement, que l'objectif pour lui était de venir afin de pouvoir gracieusement offrir ce salut par la foi lorsqu'il a donné sa vie sur la croix. Mais en faisant cela, il aura aussi confié une mission, n'est-ce pas? Il aura aussi confié une responsabilité importante. Il leur a dit aussi que maintenant, eh bien, ils étaient prêts, eux, maintenant, à être la lumière du monde. Dans le livre des Actes, vous connaissez bien ce verset, le chapitre 1er, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et à cela, on peut rajouter, hein, le passage de Matthieu. Matthieu, il finit, hein, avec ses dernières paroles de Christ, il parle pas, il donne pas de détails sur l'ascension elle-même, bien que ce soit le même moment, mais Matthieu 28, 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, hein, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a un passage de témoin ici, de deux manières. Première, ben, c'est la promesse que Christ avait faite et que le Père a accordé, c'est qu'il y aurait un autre consolateur. Parce que pour accomplir cette extraordinaire mission que Christ a confiée à ses disciples, il fallait qu'il y ait une puissance extraordinaire derrière. Et donc cet autre consolateur qui avait été déjà mentionné auparavant par le Seigneur, eh bien c'est cette troisième personne de Dieu, n'est-ce pas? On voit ici donc la promesse du Saint-Esprit. L'ascension de Christ a été bénéfique pour tous les croyants à travers les siècles, hein, depuis cet événement-là, parce que ça a permis à tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, par la repentance, de recevoir l'Esprit-Saint. Et avec l'Esprit-Saint, eh bien de pouvoir accomplir la mission que Christ a confiée à son Église. On ne se rend pas souvent compte de cela. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur, dans Jean chapitre 16, verset 7, nous avait même dit qu'il était mieux pour nous que Christ s'en aille pour que l'Esprit vienne. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça signifie quoi? Ça signifie que malgré ce départ de Christ, les chrétiens sont bien mieux lotis parce que l'Esprit Saint est désormais présent avec eux. Et la raison de cet avantage que nous avons avec l'Esprit Saint se trouve également dans les œuvres et le ministère du Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas simplement qu'un consolateur, il n'est pas juste là pour dire « Oui, bon, il est parti, mais il va revenir, on va prendre soin de tout. » Non, c'est... Il n'y avait pas que la notion de consolateur, il ne faut pas s'attacher juste à cet aspect-là du Saint-Esprit. Dès le livre de la Genèse, on sait que l'Esprit était même là présent au moment de la création. Mais l'Esprit Saint, il est également quelqu'un qui enseigne. Parce que dans ce même passage de Jean chapitre 16 au verset 13, le Seigneur dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Donc l'Esprit Saint a un rôle d'enseigner la vérité, de nous rappeler la vérité. Dans Jean 14, 26, le Seigneur nous dit cela aussi à propos du Consolateur. « Il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous savez, dans ces moments où nous témoignons à d'autres personnes, dans ces moments où, eh bien, je ne vais pas dire comme par hasard, mais on a cette impression-là que, tiens, on se rappelle de ce verset et ça va tout à fait, c'est bien à propos avec ce dont on est en train de parler. Et même si on ne se rappelle pas forcément de la référence, on sait que bah, dans la Bible, il est écrit ceci. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous rappelle ce que nous avons déjà lu dans les Écritures, ce que nous avons déjà médité dans les Écritures, ce que nous avons appris dans les Écritures. L'Esprit Saint nous assiste également dans la prière. Paul nous dit dans Romains 8, verset 26, que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Combien de chrétiens sont bloqués parce qu'ils disent « Je ne sais pas comment prier, je ne sais pas quoi dire » et n'osent pas prier. Rendez-vous compte que l'Esprit Saint est là même pour vous aider dans vos prières. Et Paul, il nous dit que même lorsque nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, eh bien l'Esprit Saint lui-même intercède pour nous, intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit Saint a été essentiel également, parce que l'Esprit Saint, c'est celui qui va montrer là où il y a le péché dans la vie de quelqu'un. Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8, il nous dit que quand il sera venu, donc ça c'est au moment de la Pentecôte, quand il sera venu, eh bien son ministère ça va être quoi? Il convaincra le monde dans ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est-à-dire que son œuvre actuelle n'est pas simplement limitée à nous chrétiens, son œuvre actuelle c'est aussi dans le monde entier, en cherchant à montrer aux gens qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Mais nous savons que la majorité des gens vont résister, n'est-ce pas? Résister à l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Certains vont être touchés par cela. Certains vont être convaincus par cela. Et vont chercher la vérité et la trouvent en Christ. Son œuvre, c'est également dans le fait qu'une fois que ces personnes elles sont convaincues, une fois que ces personnes ont compris le message de l'Évangile et placé leur foi en Jésus-Christ, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui opère la nouvelle naissance. C'est l'Esprit Saint qui régénère, qui fait de cette âme, de cet esprit, eh bien, une créature entièrement nouvelle. C'est lui qui sanctifie, c'est lui qui va aider le croyant, eh bien, à se rapprocher de Dieu dans la sainteté, qui va l'aider à faire les choix qui vont honorer Dieu parce que c'est des choix qui sont conformes à sa sainteté. C'est lui qui dirige, c'est lui qui va aider les chrétiens à faire donc ses choix dans leur vie. On le voit dans le livre des Actes, être celui qui même dirige dans l'œuvre d'évangélisation, dans l'accomplissement de cette grande mission. Vous vous rappelez de ce qu'il a fait avec Philippe? Lorsque il lui montre, hey, « Hé, là-bas, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Avance-toi de ce char. » Et combien de fois ça peut nous arriver aussi à nous chrétiens, on est dans une situation et tiens, cette personne-là, on ressent qu'elle a besoin d'entendre. Elle est prête même à entendre. Et donc cette puissance que le Saint-Esprit représente pour nous, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous énergise de pouvoir prêcher la parole. Et d'accorder même à certains chrétiens même un don pour évangéliser, pour aller faire face à des foules et prêcher l'évangile, eh bien, avec courage, avec témérité. Et c'est toujours ce même Saint-Esprit qui accomplit cela dans la vie de telle personne, qui accomplit dans la vie des autres chrétiens toutes sortes de grandes choses également. Mais je crois que l'un des éléments les plus merveilleux et peut-être les plus importants pour nous, c'est que Dieu a choisi de faire de chacun de nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, que notre corps devienne le temple du Saint-Esprit. Que Dieu, en esprit, soit constamment présent avec le chrétien. C'est ce que Paul rappelle dans 1 Corinthiens 6, 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Mais le deuxième relais qu'on voit ici, c'est que, bon, d'abord, il y a le Consolateur que Christ a promis et qui va venir dans quelques jours par rapport à cet événement dont nous parlons. Mais il y a aussi le fait que Christ nous a assemblés pour accomplir cette mission. Et bien plus encore. L'ascension, c'est ce qui a également établi les prémices, si vous voulez, les fondements pour l'Église de Jésus-Christ. Sans l'ascension, il n'y aurait pas l'Église comme nous la connaissons. Et nous n'aurions pas bénéficié de tout ce que l'Église représente. Les deux passages, Luc et le livre des Actes, eh bien, décrivent cet événement transitionnel entre l'ancienne alliance et cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Avec cette nouvelle alliance où Christ, eh bien, établit son Église et nous a rendus participants à cette entité qui est réelle, qui est spirituelle. Lorsque Jésus, il a achevé tout ce que le Père avait prévu pour lui d'accomplir sur terre à ce moment-là, il retourne auprès du Père, mais il confie à ses disciples cette mission. Et quand on lit le livre des Actes, ils vont obéir à ce que Christ leur a demandé, ils vont attendre la venue de l'Esprit-Saint, et une fois l'Esprit-Saint venu, eh bien là, il y a un des plus grands moments d'évangélisation qui se produit, n'est-ce pas? Des milliers de personnes qui entendent l'Évangile et qui viennent au Seigneur Jésus par la foi et ensuite se font baptiser par obéissance. Cette Église, Christ en avait parlé au cours de son ministère terrestre, mais il en parlait toujours comme quelque chose de futur, comme quelque chose qui était encore à venir. Ce n'était pas au moment de sa présence sur terre que l'Église serait là. Dans Matthieu 16, verset 18, on connaît bien ce verset aussi. Et je te dis que tu es Pierre, que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici, c'est quelque chose de futur. Je bâtirai mon église. C'est-à-dire que l'église n'était pas encore née à ce moment-là. Et en lisant le livre des Actes des Apôtres, on comprend qu'avec la venue de l'Esprit-Saint, c'est là que l'église va débuter. L'ascension, marquait la fin de cette période d'humiliation de Christ, a marqué la fin de ce ministère terrestre, mais aussi le début donc de cette exaltation, de ce retour dans sa gloire. Mais là également, on a le début donc de cette nouvelle ère, de cette nouvelle âge, dispensation, si vous voulez, où l'Église, avec le Saint-Esprit, eh bien, est appelée à accomplir de grandes choses. Donc la suite du livre des Actes nous montre la manière dont l'Église de Christ a débuté et marque donc le point de départ pour tous les autres livres également du Nouveau Testament. Toutes les doctrines que Paul a enseignées, elles ont été établies pendant cette période qui est décrite dans le livre des Actes. Le livre de l'Apocalypse repose entièrement sur le fait que Christ est ressuscité, mais surtout qu'il est au ciel et qu'il reviendra. Et dans ces récits justement de l'ascension, on a cette promesse du retour de Christ. Mais l'Église, c'est l'œuvre de Christ. C'est ce qu'il nous a donné de plus précieux après notre salut et après le Consolateur. Ce qu'il nous a donné de plus précieux, c'est l'Église. Éphésiens 4, 11, pour ceux qui étaient là lorsqu'on a fait cette série sur l'Église, on connaît bien aussi ce passage. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Et le but, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Avec cela, avec l'Esprit Saint, avec l'Église, Christ également a tout prévu, n'est-ce pas? Il a tout prévu pour notre perfectionnement. Il a tout prévu pour que nous puissions marcher en conformité à qui il est et ainsi glorifier Dieu. Équipés pour œuvrer, parce que maintenant, les disciples, eh bien, ils sont en mesure non seulement d'apprécier les promesses des bénédictions, etc., hein, toutes leurs inquiétudes et leurs craintes se sont dissipées. Ils sont plus dans ce même état d'esprit que juste au moment de la crucifixion et même après la résurrection. Il n'y a plus ces incertitudes. Ils ont clairement compris l'identité de Christ. Ils ont clairement compris la raison de sa venue. Et maintenant, ils ont clairement compris quelle était leur mission. Encouragés pour accomplir l'œuvre. Cette œuvre, eh bien, de partager cette merveilleuse nouvelle de la raison pour laquelle Christ a dû souffrir, mais aussi qu'il est ressuscité. Et bien qu'ils soient physiquement séparés du Seigneur, on les voit ici avec cette assurance, avec cette joie dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une fois cette même promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Malgré le fait qu'ils soient séparés de nous physiquement, le Seigneur est présent spirituellement. Qu'est-ce que l'on a à regretter le fait que Christ ne soit pas physiquement avec nous lorsque nous voyons et comprenons tout ce qui est venu par la suite, quand nous prenons même la parole du Seigneur Jésus lui-même, cette parole au mot, lorsqu'il nous dit que c'est plus avantageux pour nous que l'Esprit vienne. Il dit « Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Et même pour montrer à quel point le Seigneur il a été ce fidèle bon berger envers eux, la manière dont il est reparti, elle est intéressante. On a vu dans les évangiles qu'à un certain moment, les disciples sont réunis, puis chou, le Seigneur Jésus apparaît au milieu d'eux. Alors on peut comprendre un peu la stupeur et la crainte des disciples à ce moment-là. Mais même là, dans la manière dont le Seigneur est reparti, il n'est pas reparti paf d'un coup comme ça. Ils l'ont vu s'élever vers le ciel. Ils ont pu le voir, on s'imagine un peu la scène, hein, retrécir, sa figure retrécir jusqu'à ne plus le voir. Et ce n'est pas un moment qui a été rapide. Ils ont pu le voir. De la même manière que quand on a nos bien-aimés qui nous ont rendu visite et on leur dit au revoir, là, pendant 20 minutes, encore après, sur le seuil de la porte. Mais finalement, quand ils sont dans la voiture et qu'ils partent, et on est là, on les regarde partir, et puis on peut leur faire un signe de la main, au revoir, jusqu'à ce qu'on ne les voit plus. Pour moi, je vois là, encore une fois, les tendres soins du bon berger, qui veut aussi les réconforter, leur donner encore, voilà, c'est cette image de lui qui est encore là. Et de manière graduelle, il s'en va. L'ascension de Christ a été bénéfique pour nous. Parce que si Christ a fidèlement continué jusqu'au bout sa mission terrestre, son ministère terrestre, avec fidélité, avec bonté, avec grâce, eh bien, on peut maintenant aussi regarder à son ministère actuel avec cette même confiance et cette même joie. Parce que Christ n'a pas fini d'œuvrer pour nous. Le fait qu'il soit retourné au ciel a marqué, certes, la fin de son ministère sur terre, mais aussi le début de son ministère céleste. Le ministère de Christ envers les croyants n'a pas cessé sur ce mont des Oliviers, n'est-ce pas? Bien au contraire, il s'est même amplifié pour nous. On a vu que sans le don de l'Esprit Saint, notre vie même en Christ n'est pas possible parce que c'est lui qui régénère, mais aussi parce que c'est lui qui équipe avec les dons spirituels, c'est lui qui nous enseigne, qui nous dirige, etc. Mais l'ascension a été le début d'un ministère pour nous. D'abord, selon les promesses même de Christ lui-même, il est au ciel actuellement pour préparer notre venue. Il avait annoncé à ses disciples que justement l'un des aspects de son ministère céleste serait de nous préparer une place dans la maison de son Père. Ici, l'accent, il est mis sur le fait que nous serons dans la présence directe du Père. C'est l'idée d'être dans la proximité de Dieu, d'être dans sa présence qu'il faut retenir. Ce tabernacle de Dieu avec les hommes habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 21:3. Christ, actuellement, agit. Il agit spirituellement dans notre vie, on peut noter quatre domaines dans lesquels le Christ agit actuellement. La première, c'est que il agit comme notre souverain sacrificateur. C'est lui qui nous permet de nous approcher du Père par la prière, de recevoir du Père la grâce, la miséricorde et le secours. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous en parle dans le 4e chapitre, versets 14 et 16. « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est-à-dire que le ministère actuel de Christ en tant que souverain sacrificateur, c'est ce qui nous permet de nous approcher du Père dans la prière. C'est ce qui nous permet d'élever nos voix vers lui et de lui demander d'accorder gracieusement une réponse favorable à nos requêtes. Christ agit également comme notre défenseur. Un avocat qui, face aux accusations de l'ennemi, va attester de la réalité de notre salut. Un salut qui est éternellement sécurisé par Christ le juste. La première épître de Jean, chapitre 2, verset 1er, nous rappelle cela, que si quelqu'un a péché, on a un avocat auprès du Père, Christ le juste. Et c'est lui qui peut dire, non, j'ai payé pour lui. Oui, il est encore tombé là, il a encore désobéi, mais j'ai tout payé. Tous ses péchés ont été payés. Son ascension, c'est également la promesse du retour. Lorsque Jésus viendra instaurer son royaume, il reviendra exactement comme il est parti, mais dans sa gloire. Dans sa gloire. Il va revenir, littéralement revenir, corporellement, visiblement, et tout œil le verra. Christ agit également comme notre médiateur, celui qui nous assure notre accès au ciel. C'est lui qui fait ce lien entre Dieu et nous. Et c'est par cela que nous recevons l'héritage éternel qui nous a été promis, comme là encore l'Épître aux Hébreux nous le rappelle au chapitre 9 et verset 15. Frères et sœurs, lorsqu'on considère cet événement de l'ascension, lorsqu'on considère tout ce qui est lié au départ de Christ, nous devrions, tout comme les disciples, nous réjouir. Nous réjouir que Christ a tout accompli pendant son ministère terrestre. Nous réjouir de ce qu'il est dans sa gloire. Nous réjouir que actuellement, il est celui qui agit encore pour nous, en notre faveur, que son ministère envers ses brebis n'est pas fini. Et que chaque jour que nous vivons, nous pouvons compter sur le fait que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous sont actifs dans notre vie. Et ça, c'est la grâce et la bénédiction de l'ascension, de ce que Christ a envoyé l'Esprit Saint, de ce que l'Église a pu commencer, et que cette Église actuellement, Christ est en train de la préparer. Il est en train de la préparer pour ce jour glorieux où nous serons réunis avec lui, que nous serons tous dans la présence du Seigneur, dans la présence de Dieu, tous les chrétiens, les croyants de tous les âges, eh bien, nous serons finalement réunis avec le Seigneur dans ce jour glorieux. Ça, c'est tout ce que l'ascension représente pour nous. Ah, c'est vrai, bon, Noël, c'est la grande fête. Pâques, c'est ce jour où on va se réunir en famille, mais c'est vrai que leur signification pour nous en tant que chrétiens, c'est bien plus que cela. Mais l'ascension, c'est la continuité de ces deux événements-là. Le fait que Christ soit venu humblement en tant que serviteur, donner sa vie, qu'il soit mort et ressuscité, qu'il soit reparti. Et que tout ce qu'il nous a promis, tout ce qu'il a accompli et tout ce qu'il continue d'accomplir, eh bien, nous avons l'assurance de toutes ces choses. Parce que, voilà, il est retourné au ciel et a envoyé son Esprit Saint, établi son Église et nous a appelés à œuvrer au sein de cette Église. Et ça, c'est encore une des autres leçons que l'on aurait pu tirer de ce passage, mais faute de temps, on ne va pas regarder à cela en détail. Mais il est vrai que le point important pour nous, en tant qu'Église, c'est vrai qu'il y a cette promesse de l'Esprit Saint, mais il y a aussi cette responsabilité. Cette responsabilité d'être impliqué d'une manière ou d'une autre dans la propagation de l'Évangile. Que ce soit en évangélisant nous-mêmes, en priant pour les missionnaires, ou en soutenant financièrement pour les œuvres missionnaires, peu importe, nous sommes appelés à participer à cela. Et ça, c'est la grande mission de l'Église. Mais tout cela, encore une fois, c'est seulement grâce au fait que dans son plan parfait, Dieu, eh bien, il a prévu que cette période dans laquelle nous vivons, ce soit cette période du Saint-Esprit, celle de l'Église, et que jusqu'au retour de Christ, eh bien, nous sommes appelés à être cette lumière pour le monde. Réjouissons-nous donc de l'ascension, parce qu'avec cela, il y a aussi la promesse du retour de Christ. Et parce que nous savons qu'il nous a promis qu'il reviendrait de cette même manière, eh bien, nous devons quelque part être sur le qui-vive. Le qui-vive dans le sens que, ben, on ne doit pas rester inactif. On ne doit pas rester à simplement attendre, comme les disciples, ils étaient là, ils regardaient Jésus partir, et puis ils restaient à regarder le ciel jusqu'à ce que, voilà, les anges du Seigneur, mais qu'est-ce que vous regardez là au ciel? Qu'est-ce que vous regardez là au ciel? C'est pas le moment. Faites ce que le Seigneur vous demande. Et ils l'ont fait, ils sont retournés à Jérusalem, reçoivent l'Esprit Saint, et puis là, c'est le début de cette grandiose âge de l'Église que nous connaissons actuellement. Mais remercions le Seigneur, soyons reconnaissants pour ce qu'il a accompli en ce jour-là. Prions.